Parce que Portalis, par ailleurs, est aussi l'artisan d'une autre grande réforme de Napoléon. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours sur Napoléon. Mais l'autre grande réforme de Napoléon, ça a été le Concordat, c'est-à-dire justement de redonner toute sa place aux phénomènes religieux dans la société, justement pour sortir de l'anarchie de la Révolution. Et donc vous voyez que on peut très bien interpréter la politique religieuse et la politique familiale moderne comme une idéologie au service du pouvoir politique, de la nation, de toutes sortes d'autres valeurs. Mais ici, c'est très important, hein, ce que je suis en train de dire là, c'est que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une volonté politique. Et une volonté politique qui repose sur une puissance coercitive. La puissance coercitive, c'est la puissance des lois, de la police, de la justice. Le code civil, ça détermine quand même des droits, des devoirs et des interdits, forcément. Et donc, c'est tout l'appareil de l'État qui est mobilisé pour déterminer une manière conforme de vivre sa sexualité dans des intérêts politiques. Qu'est-ce qui a remplacé la nature humaine d'Aristote ? L'État. Dans ce modèle-là. Ou en tout cas, telle est la lecture qu'on peut en faire. Vous avez remarqué que Portalis parle quand même de la nature, hein, dans le texte que je viens de lire. Mais ici, l'objectif premier, vous me direz, c'est normal quand on rédige un code civil, c'est évidemment ce souci politique. Et donc, ici, l'État va promouvoir ce qu'il a intérêt à promouvoir. Vous voyez la circularité du propos. D'où la possibilité de comprendre la représentation habituelle de la sexualité à partir de la différence sexuelle, fondée sur le mariage, fondée sur le déploiement d'une vie familiale, d'où la possibilité de comprendre cette conception comme une idéologie politique pour assurer une grandeur politique. Et comme je disais tout à l'heure, en aliénant toute autre forme de vécu de sa sexualité. Tout ce qui ne rentre pas dans cet objectif familialiste, nataliste, va être vu comme au mieux toléré dans le champ privé et au pire fortement pénalisé. Et donc c'est très important, hein, d'avoir ça à l'esprit, parce que nous, évidemment, quand on lit la théorie du genre à partir de notre propre expérience personnelle ou à partir de ce que nous avons compris de tel ou tel enseignement, par exemple du magistère, on peut se dire, mais comment ils arrivent à penser des choses pareilles, d'où ils sortent de tels arguments? Ben parce que, justement, nous vivons dans des sociétés non plus modernes mais contemporaines qui, justement, ont peu à peu vu s'effilocher, se transformer de l'intérieur cette conception politique de la famille. Et en fait, ce à quoi nous avons assisté en l'espace de deux siècles, avec une accélération dans les dernières décennies à partir des années 60, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement, et je vais maintenant m'attacher au troisième texte qui va être d'une certaine manière le renversement de tout ce qu'on a vu, ce à quoi nous avons assisté depuis donc quelques décennies, c'est au contraire le déploiement d'une logique tout autre, mais en fait d'une logique qui était déjà présente au début, la logique de l'individu. Mais une logique de l'individu qui ne va plus être vue comme devant être reliée par le mariage et la famille, mais d'une logique de l'individu que l'État doit promouvoir. Et alors là, on assiste à quelque chose d'assez étonnant qu'il faut bien comprendre. C'est que, peu à peu, les grands États démocratiques finissent par promouvoir exactement l'inverse de ce qu'ils avaient promu avant. Vous voyez ? Il y a une sorte de renversement ici, ce qui montre qu'on est bien dans des enjeux aussi politiques. Le familialisme, vous voyez ce que ça veut dire familialisme, hein, le familialisme c'est un terme un peu polémique pour désigner une conception de la famille qui est vue comme officielle et qui est promue par des moyens justement à la fois sociaux, éducatifs, etc. Le familialisme que l'on voit chez Portalis, il est aujourd'hui évidemment vu comme insupportable, mais il a été remplacé par une autre forme de familialisme. Le familialisme actuel, en tout cas dans beaucoup de démocraties libérales, c'est le familialisme qui promeut des modèles familiaux différents. Il y a le modèle de la famille traditionnelle, mais il y a le modèle de la famille monoparentale, famille recomposée, famille homoparentale. Bref, l'État, de plus en plus, et on va voir le présupposé dans quelques minutes, l'État ici est au service de la promotion, non pas d'une conception de la famille, comme chez Portalis, mais est là pour promouvoir différents modèles dont, en fait, la clé de voûte, c'est la liberté de l'individu, la liberté sexuelle de l'individu. Et c'est justement ce cadre politique, cette redéfinition du familialisme, qui donne toute sa puissance à la théorie du genre. Parce que la théorie du genre, elle vient exactement se situer dans cette optique. C'est pour ça que la théorie du genre, elle est promue par les ONG, par l'ONU et par des États, notamment l'Union européenne ou l'administration américaine actuelle, etc. Parce que, on pourrait dire, bah alors il faut savoir, puisque ils sont contre la politique. Ben non, c'est pas qu'ils sont contre la politique, c'est que justement ici, l'enjeu ici, c'est quoi ? C'est d'utiliser le vecteur de l'État. Le vecteur de l'État, c'est la législation de la famille, c'est la question de la politique familiale, mais c'est aussi l'éducation, la santé. C'est des énormes ministères hein, dans les grandes démocraties libérales. Le budget de la santé, de l'éducation, Bon. Donc toute la puissance de l'État ici va-t-elle être orientée ? Ben justement, de plus en plus, elle va être orientée pour promouvoir ce que nous allons étudier précisément au fur et à mesure de cette session, cette théorie du genre dont la clé de voûte est la critique de la différence sexuelle et la dimension procréative de la sexualité. Dont la clé de voûte est la critique du caractère naturel de la sexualité. Donc l'État va promouvoir la liberté des individus et d'une certaine manière ici vous voyez l'harmonie entre la théorie du contrat et la situation actuelle, c'est qu'à partir du moment où vous dites que la société politique est fondée sur un contrat passé entre des individus, pouvez-vous dire, mais alors dans ce cas-là, le critère ultime, c'est que l'État est mesuré par la liberté individuelle. Et donc, dans l'idée d'un respect des libertés individuelles, l'État ne peut pas promouvoir une conception plutôt qu'une autre. L'État doit être neutre. L'État doit être neutre. Mais en fait, derrière l'État neutre, il y a la promotion active de la diversité des modèles. Et donc on va voir que le mot neutre ici est très ambivalent et qu'il va falloir être bien conscient de ce qu'il implique et de ce qu'il présuppose.